actuellement à partir de la playlist de la première. Comment savoir si une autre planète de notre galaxie abrite une civilisation similaire ou plus avancée que la nôtre? La question taraude les astrophysiciens depuis toujours, hein, c'est vrai, Virginie Langeroc.
Alors oui, depuis la fin des années 50, surtout, des chercheurs, notamment des Américains, ont tenté de percer ce mystère. De nombreux projets ont vu le jour pour détecter une possible intelligence qui existerait dans notre galaxie. Les chercheurs partent du postulat qu'une civilisation, comme d'ailleurs toutes les planètes, produirait des signaux électromagnétiques. Mmh. Ils utilisent donc des radiotélescopes de plus en plus puissants. Alors, il y a bien un signal qui a pu être capté, enregistré, c'était en 1977, mais il n'a pas paru suffisamment crédible. Et c'est surtout la découverte récemment de nombreuses exoplanètes grâce au satellite Kepler. Des exoplanètes, c'est donc des planètes hors de notre système solaire, qui a vraiment relancé cette question parce qu'on estime plus probable que jamais la possibilité de trouver de la vie hors de la Terre. Évidemment, le tout est de savoir comment on peut capter ces signaux pour autant qu'ils existent.
C'est justement la question. Oui, ces signaux, exactement. Oui, parce qu'il pourrait y avoir un, mais on espère qu'il y en aura plusieurs, c'est sûr. C'est la question que vous vous êtes posée, Claudio Grimaldi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'EPFL, au laboratoire de physique de la matière complexe. Votre domaine, c'est donc la physique de la matière, c'est-à-dire celle des atomes et des électrons. Donc on est dans l'infiniment petit et tout à coup vous passez à l'infiniment grand. Qu'est-ce qui vous intéressait?
Oui, c'est justement ça. C'est un changement d'échelle. Je suis passé des nanomètres à années-lumière. Mais parce que, disons, les questions sont similaires, parce que normalement, dans ma recherche de tous les jours, j'essaie de calculer la probabilité que, par exemple, des nanotubes de carbone sont en contact électrique avec des autres nanotubes de carbone qui sont mélangés dans un polymère. Et ces questions-là, c'est très similaire à la question que la probabilité que nous, on est en contact avec des possibles civilisations extraterrestres.
Donc c'est comme si nous, on était un atome et que peut-être qu'ailleurs, il y a un autre atome qui...
Disons, la mathématique, je vais utiliser ces méthodes, sont les mêmes.
Mm-hmm. Alors, vos questionnements vous ont conduit à élaborer un modèle, vous le disiez, mathématique, qui est suffisamment innovant pour être publié il y a quelques jours dans la revue scientifique américaine Proceedings of the National Academy of Science, en collaboration avec l'Université Berkeley de Californie. Et vous, vous dites qu'il faut d'abord chercher à entendre d'éventuels signaux sur une bande de fréquence étroite, comme une fréquence radio, puisque vous dites que l'univers fait beaucoup de bruit.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de bruit au niveau des électromagnétiques. Bruit optique, bruit radio, mais il y a une fenêtre entre 1 et 10 gigahertz dans laquelle l'univers est muet, presque muet. Et aussi, c'est la même fenêtre par laquelle les signaux radio peuvent traverser l'atmosphère sans être perturbés. Alors là, c'est la fenêtre optimale pour chercher des signaux. Et les bruits qui sont produits par des phénomènes naturels, sont des bruits qui ont une bande très large dans les fréquences. Par contre, les signaux que les gens vont chercher sont des signaux qui ont une bande très étroite, comme les bandes radio qu'on utilise ici, parce que c'est en moyenne, par exemple, on pense, c'est en moyenne pour encoder des messages, des choses comme ça. Alors là, depuis des décennies, les recherches sont menées pour chercher des signaux très étroits dans l'univers.
Voilà. Et donc, vous continuez, vous, dans cette logique, hein, de chercher dans cette bande
oui,
de fréquences.
Oui, j'ai appliqué les modèles en utilisant l'hypothèse qu'on va chercher des signaux qui sont très étroits.
Mm-hmm.
Oui.
Et vous utilisez quels outils, finalement, pour essayer de capter ces signaux électromagnétiques?
Des outils mathématiques. Je capte rien. J'ai fait de la théorie mm-hmm. qui, j'espère, va être appliquée par les radioastronomes. Ce sont des outils de probabilité. Il y a un théorème, ça s'appelle un théorème de probabilité, ça s'appelle le théorème de Bayes, ça a été inventé il y a 200 ans, et qui me permet d'établir les probabilités qu'on capte des signaux si les radiotélescopes captent rien ou si captent quelque chose. On peut établir la population possible des signaux dans notre galaxie comme résultat des expériments ou des mesures qui sont faites avec les radiotélescopes.
Mais la question, c'est radiotélescopes, on peut donc voir et entendre?
On peut voir, entendre. Disons, sont des signaux électromagnétiques, radio. Et là, disons, on peut voir parce qu'on peut calculer la distance de la source des signaux, la direction à distance, et on peut en principe voir si le signal est modulé, s'il y a quelques informations cachées dedans. Et voilà, c'est comme ça, c'est vraiment comme la radio.
Mais donc vous, vous basez sur les résultats des écoutes de ces télescopes, c'est ça?
C'est ça. Disons, jusqu'à maintenant, disons, la puissance des radiotélescopes qui sont utilisés, c'était pas incroyable. Disons, jusqu'à maintenant, on peut exclure qu'il y a une civilisation en 40 années de lumière de chez nous qui utilise des signaux radio puissantes comme ceux qui sont produits par
l'humain.
Oui, exactement.
On peut exclure, vous dites.
On peut exclure parce qu'on n'a rien. Oui,
donc sur les planètes qui sont à 40 années-lumière de nous, autour
on
a de nous,
rien
y a
vu.
Rien.
On peut, oui, depuis des décennies, on a cherché. Mais alors, il faut élargir les rayons de recherche.
Élargir,
là,
oui.
Il faut utiliser des radiotélescopes plus puissants. Mm-hmm. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qui se passera dans le futur. Si sont en construction des radiotélescopes de nouvelles générations qui sont capables d'arriver jusqu'à 1000 années-lumière de chez nous. Et alors, je me suis demandé qu'est-ce qui arrivera si on ne capte rien dans 1000 années-lumière chez nous ou si on capte un signal. Quelles sont les conséquences? Si on ne capte rien, quelles sont les probabilités qu'il n'y ait rien, vraiment? Alors, on est arrivé à le résultat qui est que si on ne capte rien d'ici à 40 années-lumière, la galaxie, c'est la taille, c'est 100 000 années-lumière.
Okay.
Alors, si on arrive à la moitié, disons, de la galaxie, on peut dire, bon, c'est probable qu'il n'y ait rien dans toute la galaxie.
Ouais.
Et si par contre, on capte même un seul signal dans un rayon de 500 ou 1000 années-lumière, alors là, il y a une très forte probabilité qu'il y ait centaines, sinon plus de centaines de signaux qui arrivent sur Terre, mais on n'arrive pas à les capter parce qu'ils sont trop faibles.
Ouais.
Ou on n'a pas encore capté parce qu'on n'a pas regardé la bonne direction de l'espace.
Mm-hmm. Alors c'est justement le fait que les radiotélescopes soient de plus en plus puissants ou le fait qu'on a découvert ces exoplanètes récemment qui explique le fait qu'il y a un regain d'intérêt pour ces questions.
Oui, disons que c'est parti avec la découverte des milliers d'exoplanètes. Maintenant, on estime que dans notre galaxie, il y a 10 milliards, ou presque en ordre de grandeur, de 10 milliards d'exoplanètes qui sont similaires à la Terre, sont des planètes rocheuses, qui ne sont pas trop près, pas trop loin de l'étoile. Alors, on peut penser que les températures ne sont pas trop extrêmes. Alors, on a ces planètes ont des potentiels pour abriter de la vie. Alors, à partir de ça, disons, la recherche pour des signaux extraterrestres disons, est devenue plus importante et des radiotélescopes plus puissants vont être aussi construits, pas seulement pour les recherches extraterrestres, mais disons, aussi pour d'autres problèmes d'astrophysique.
Et donc vous pensez vraiment voilà, qu'on va, grâce à ces nouveaux télescopes, réussir à capter clairement des signaux d'autres civilisations?
Je ne sais pas s'il y a quelque chose à capter. Disons que la puissance de ces radiotélescopes sera telle qu'on pourra, dans le futur, pas trop loin, conclure s'il y a quelque chose ou pas.
Après, vous êtes parti du postulat qu'une autre civilisation émettait des sons comme nous dans une gamme de fréquences hein, de 1 à 10 MHz.
Oui, c'est oui.
Mais peut-être qu'on pourrait tomber sur une civilisation qui va émettre d'autres types de signaux.
Exactement, c'est ça, oui.
Et qu'on,
ça,
alors, du coup, on passera à côté d'eux. Alors.
Oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vraiment difficile, c'est presque impossible d'exclure l'existence de quelque chose. Ouais. Mais on peut donner des probabilités. C'est sûr qu'on aimerait que quelque chose soit capté pour dire « Oh, on n'est pas les seuls ici dans la galaxie. » Mais...
Virginie.
Vous partez du postulat, donc vous disiez qu'on peut capter ou ne pas capter un signal venu de loin et que si on capte rien, ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien.
Oui.
Et vous prenez parfois l'exemple du portable.
Oui,
dans le désert.
C'est
parlant.
On peut imaginer, j'ai un portable avec moi, je me demande s'il existe autre portable dans le monde. Mais alors, si je suis ici à Lausanne, bon, j'ai un signal, je peux parler avec les gens, bon, j'arrive à la conclusion qu'il y a pas mal de portables, mais si je tombe avec un avion au milieu du désert du Sahara, là, il n'y a pas de signal. Alors, je peux dire, bon, il n'y a pas de portable, j'ai aucune évidence. Mais avec une approche probabilistique, je peux toujours donner une probabilité qu'il existe deux autres portables, même si je suis dans le Sahara.
Eh ben, c'est tout ce qu'on espère, évidemment. Hein, qu'on trouve des portables dans le Sahara, c'est une chose, mais surtout des vies d'autres civilisations ailleurs dans notre galaxie. Vos calculs, on va terminer avec ça, Claudio Grimaldi, vos calculs de probabilité sont très récents. Hein, on disait, vous avez publié début octobre. Vous pensez que des astrophysiciens et d'autres chercheurs pourraient bientôt les appliquer?
Je l'espère. Justement, fin octobre, je vais présenter les résultats lors d'un workshop organisé dans les quartiers généraux de la Square Kilometer Array, que c'est le télescope le plus puissant du monde. C'est un rayon de télescope qui va être construit.
Oui, entre l'Afrique du Sud,
Afrique
l'Australie.
Afrique du Sud et Australie.
On a évoqué ça
autres,
dans CQFD.
Autres télescopes aussi par tout le monde. Mm-hmm. Et là, le workshop, c'est vraiment c'est ciblé sur la recherche des signaux extraterrestres et avec ce type de télescope. Ouais. Alors, on va voir qu'est-ce qui
nous attend, et comment ça va être perçu. Oui. Merci beaucoup, Claudia Grimaldi, d'être venue nous expliquer votre approche ce matin en direct, basée donc sur la théorie des probabilités qui devrait permettre de mieux cibler la recherche d'éventuelles intelligences hors de la Terre. Je rappelle que vous êtes chercheur au laboratoire de physique de la matière complexe de l'EPFL. Et le jour où on trouve et on invite des extraterrestres, on pourra leur faire goûter à nos meilleures spécialités culinaires. Par exemple, nos fromages. Et parmi ces fromages, certains semblent très vieux, Lucia Silig.
Très vieux et très acide chez les momies égyptiennes, agrémenté de pignons verts chez les Romains et produit par le cyclope lui-même en